Vous écoutez On lit pour vous.
Marie-Claire Davelui, 1880-1968. Une historienne féministe avant la lettre. Un texte de Louise Bienvenue paru le 2 juin 2026 dans la presse. Beaucoup de Québécois qui ont changé le cours de l'histoire restent méconnus. Dialogue s'attarde à l'occasion à une personnalité qui a façonné le Québec. Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur Marie-Claire Davelui, qui a jeté les fondations du féminisme au Québec. En 1958, la journaliste Germaine Bernier demandait au lecteur du Devoir « Réalise-t-on vraiment tout ce que Marie-Claire Davelui a accompli chez nous pour la promotion des femmes en ouvrant aux chercheuses en herbe la grande voie de l'histoire? » Cette interrogation demeure étonnamment actuelle. Aujourd'hui, le nom de Marie-Claire Davelui a presque disparu de notre mémoire collective, malgré l'importance de son apport à la culture et au progrès des femmes. Quelques personnes se rappellent peut-être encore Perrine et Charlot, les attachants héros de ses livres pour enfants, qui ont jadis connu un immense succès. Mais la majorité ignore tout de son travail d'historienne, de son engagement féministe et de son rôle de pionnière dans le développement des bibliothèques et la promotion de la lecture. Née en 1880 dans une famille de la bourgeoisie montréalaise, Marie-Claire Davelui fait d'excellentes études au couvent d'Hochelaga. Devenue jeune, adulte et encore célibataire, elle doit subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses parents frappés par un revers de fortune. Après quelques années comme secrétaire, elle entre en 1917 à la toute nouvelle bibliothèque de la ville de Montréal, où elle fera une carrière remarquable pendant 27 ans. Constatant le manque de formation en langue française dans le domaine, elle joue un rôle clé dans la création, en 1937, de l'École des bibliothécaires, l'ancêtre de l'actuelle École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, EBSI, de l'Université de Montréal. Marie-Claire Davelui est aussi une femme de cause. Dès les années 1910, elle milite au sein de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, première organisation féministe canadienne-française, et collabore activement à sa revue La Bonne Parole. Elle fait partie des rares femmes qui osent défendre publiquement le droit de vote féminin. Cette prise de position lui coûtera cher. À la sortie de son premier livre, L'orphelinat catholique de Montréal, 1919, le directeur de la revue dominicaine refuse d'en parler tant qu'elle n'aura pas abjuré cette doctrine dangereuse et antichrétienne du suffragisme. Dans le Québec de l'époque, être suffragiste reste mal vu. Le cardinal Bégin affirmait encore en 1923 que l'entrée des femmes dans la politique, même par le seul suffrage, serait un malheur. Une première historienne laïque au Québec. C'est à travers ses travaux d'historienne que Marie-Claire Davelui contribue le mieux à la mise en valeur de l'agir féminin au sein de la société canadienne-française. Son œuvre, écrite dans ce domaine, s'étend sur une cinquantaine d'années. Les héroïnes de la Nouvelle-France y sont surtout la vedette. Jeanne Mance, Marie Rollet, Madeleine de Chauvigny de la Peltrie et Marguerite Bourgeois, par exemple. Éclairer le rôle des femmes dans l'histoire, les faire sortir de l'oubli, est une sorte de mission pour elle. Son travail de recherche le plus important est, sans aucun doute, sa biographie de Jeanne Mance, qui lui valut le prix Athanase David ainsi qu'un prix de l'Académie française en 1934. Dans les années 1920, alors que l'on multiplie les monuments à la gloire des héros nationaux, Marie-Claire Davelui s'interroge sur la place accordée aux femmes dans l'espace public. Consternée par leur quasi-absence dans la commémoration urbaine, elle se lance avec passion dans l'organisation d'une cérémonie annuelle, bien avant qu'on ne l'admette officiellement en 2012 comme la cofondatrice de Montréal. Érudite et passionnée d'archives, Marie-Claire Davelluy ne s'adresse pas qu'aux spécialistes. Elle se conçoit aussi comme une éducatrice populaire. Elle publie aussi de nombreux articles historiques dans des revues grand public et des almanachs. Conférencière infatigable, la disciple de Clio multiplie les causeries et les interventions publiques tout au long de sa carrière. Dans les années 1940, elle signe pour Radio-Canada une centaine de sketchs historiques, contribuant à diffuser l'histoire auprès d'un vaste public. Ses romans jeunesse, eux aussi, participent à ce travail de vulgarisation. Plusieurs sont ancrés dans un décor historique et transmettent, sous le couvert du récit, un véritable savoir. Sa série en 6 volumes, Périne et Charlot, connaît d'ailleurs un succès retentissant. Le premier tome s'écoule à 33 000 exemplaires. Si Davelluy s'adonne à sa passion pour l'histoire en autodidacte, en dehors des heures de travail, son œuvre dépasse pourtant celle d'une simple amatrice. L'historienne réussit à se hisser à la hauteur des standards méthodologiques de son époque. Avant la féminisation des titres, on la considérait comme un historien érudit. C'est à elle, d'ailleurs, que revient l'honneur d'avoir été la première femme admise à la Société historique de Montréal en 1917. En somme, Marie-Claire Davelluy était une personnalité reconnue de son temps. Ses prix littéraires en témoignent, ainsi que le doctorat honoris causa de l'Université de Montréal reçu en 1943 et la médaille du centenaire de la Société historique de Montréal qu'elle obtient en 1958. Avec de telles réalisations, pourquoi une mémoire si oublieuse à son égard? Son orientation idéologique y est sans doute pour quelque chose. Nationaliste convaincue et catholique pratiquante, Davelluy s'inscrit dans une tradition dont les valeurs cadrent parfois mal avec les sensibilités d'aujourd'hui. C'est probablement pour cette raison qu'elle est moins mise en avant que d'autres féministes plus avant-gardistes de son époque, comme Idola Saint-Jean, Eva Circé-Côté ou Léa Robac. Mais n'est-ce pas justement le moment d'élargir notre vision de l'histoire du féminisme en reconnaissant Marie-Claire Davelluy parmi les pionnières de la cause des femmes au Québec? Trois moments marquants. Automne 1917. Marie-Claire Davelluy devient la première femme admise à la Société historique de Montréal, alors un haut lieu de promotion et de diffusion de l'histoire canadienne où se réunissent de nombreux érudits. 1934. Elle publie l'étude biographique Jeanne Mance, 1606-1673, aux éditions Albert Lévesque à Montréal. Cet ouvrage majeur de 428 pages s'impose comme une référence incontournable sur la pionnière. Dans cette étude, qui sera honorée par le prix David, Marie-Claire Davelluy présente l'infirmière de l'Hôtel-Dieu comme la cofondatrice de Montréal. Une réédition augmentée sera publiée en 1962 aux éditions Fides. 1937. Elle fonde, avec Égidius Fauteux et les pères Émile de Guire et Paul-Aimé Martin, l'École des bibliothécaires, affiliée à l'Université de Montréal. Elle est l'initiatrice du projet et en sera l'âme dirigeante pendant plusieurs années. Cet établissement est considéré comme l'ancêtre de l'actuelle EBSI, École de bibliothéconomie et de sciences de l'information. C'était Marie-Claire Davelluy, 1880-1968, une historienne féministe avant la lettre. Un texte de Louise Bienvenue, paru le 2 juin 2026 dans la presse.
Haute vitesse, boulangerie branchée et code barre. Un texte d'Alain McKenna paru le 27 mai 2026 dans la presse. Robert Desmeules, un lecteur, demande « J'ai un modem routeur DSL que je songe à changer pour la haute vitesse, mais le signal risque d'être faible lorsque je serai dans mon bureau à l'autre bout de mon logement. Que faire? » Le passage à la haute vitesse transforme l'expérience numérique, mais un signal trop faible gâche l'investissement. Les ondes Wi-Fi aiment la proximité et détestent les murs de béton et les longues distances. La pire erreur serait d'acheter un gros routeur hors de prix avec tout plein d'antennes. Ces appareils promettent des miracles, mais luttent quand même contre les lois de la physique. La solution serait probablement un réseau maillé, ou mesh. Au lieu d'une seule antenne centrale, vous installez deux ou trois petits relais discrets à des endroits stratégiques. Le premier se branche sur votre nouveau modem. Les autres prolongent le signal sans réelle dégradation de la bande passante. Ils se passent le relais comme des coureurs et créent une seule grande couverture stable partout chez vous. Si votre logement bloque les ondes, un ensemble d'adaptateurs Ethernet par vos prises électriques, adaptateurs CPL, est une option intéressante. Ces adaptateurs utilisent le câblage électrique derrière vos murs pour relayer l'Internet jusqu'à votre bureau. Avec ou sans fil, les options existent pour vous brancher mur à mur. Lynn Vigneault, une lectrice, demande « J'ai acheté deux pains à la boulangerie ce matin en payant avec ma carte de crédit. Je n'y ai jamais fait d'achat en ligne ni donné de renseignements personnels, mais j'ai reçu la confirmation de mon achat par courriel. Comment est-ce possible? » Rassurez-vous, il n'y a aucun fantôme ni mécanisme louche derrière ce courriel. La réponse se trouve dans l'intelligence des terminaux de paiement modernes. Votre boulangerie utilise probablement un système de caisse, POS, comme ceux de Square ou de Lightspeed. Ces entreprises gèrent des terminaux dans les commerces et centralisent les données de millions de transactions partout au pays et dans le monde. Si vous avez visité un autre commerce équipé du même système de paiement, peut-être avez-vous transmis votre adresse courriel à ce moment. Le système a alors associé de façon permanente votre numéro de carte de crédit à votre boîte de réception. La même chose peut s'être produite lors d'un achat en ligne sur un site où l'outil de paiement est du même fournisseur que celui de votre boulanger. Lorsque vous avez approché votre carte du terminal de la dite boulangerie, l'algorithme a reconnu votre carte et a envoyé la confirmation au courriel déjà lié à votre profit dans sa base de données. Le boulanger n'a jamais vu votre adresse courriel. Normalement, un lien au bas du courriel devrait vous permettre de gérer vos renseignements personnels enregistrés. Emmanuel Cetekasi, un lecteur, demande « Ces nombreuses étiquettes, code-barre, code-QR, etc. sur les colis sont-elles sensibles? Et si elles le sont, peuvent-elles être récupérées par des fraudeurs? » Ces étiquettes collées sur vos cartons contiennent beaucoup d'informations, les étiquettes de livraison surtout. Le code-barre ou le code QR ne renferme pas qu'une suite de chiffres aléatoires pour le tri postal. Il contient une version cryptée de vos données d'expédition. Avec la bonne application sur un téléphone intelligent, il est possible de numériser l'étiquette sur votre bac de récupération et de découvrir votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et peut-être même votre adresse courriel. Des cybercriminels pourraient orchestrer à partir de ces données des attaques d'hameçonnage personnalisé, ce qu'on appelle du harponnage. Vous recevez un faux message qui prétend qu'un colis est bloqué à la douane avec votre nom et votre adresse. Ça peut être un piège tendu à partir de cette information. Prenez l'habitude de déchirer ces étiquettes avant de jeter vos boîtes, de rayer les codes avec un feutre opaque ou de décoller le papier. Ne laissez pas votre vie privée traîner sur le trottoir. C'était « Haute vitesse, boulangerie branchée et code-barre », un texte d'Alain McKenna paru le 27 mai 2026 dans la presse.
Pourquoi les bâtons de hockey se brisent-ils aussi souvent? Un texte de Julien Forêt, paru le 26 mai 2026 dans Le Devoir. N'importe quel partisan du Canadien qui a regardé un match pendant les séries l'a constaté. Les joueurs brisent des bâtons. Beaucoup de bâtons. Mais pourquoi l'équipement de ces athlètes élites semble-t-il flancher si facilement? Jeffrey Ferron connaît les bâtons de hockey. Depuis 10 ans, il les répare depuis son petit atelier de la Rive-Sud dans la région de Montréal. Selon lui, c'est la question du poids des bâtons qui est en cause dans la quantité énorme d'entre eux qui sont brisés lors des matchs de hockey professionnel. Pour enlever du poids, il faut enlever du matériel. Et veut, veut pas, au final, si le bâton est plus mince à l'intérieur, il est plus fragile, explique le jeune entrepreneur. Depuis qu'il fait des affaires, il a vu une très grande transformation de l'industrie. Quand j'ai commencé, il y a 10 ans, un bâton pesait entre 425 et 450 grammes. Puis aujourd'hui, un bâton considéré comme lourd, on parle d'un bâton de 400 grammes. Puis un bâton considéré comme dans les plus légers, on parle d'entre 330 et 350 grammes, laisse-t-il savoir. Pour diminuer le poids des bâtons et répondre aux attentes des amateurs comme des professionnels, on enlève du carbone dans la palette. On enlève du carbone dans le manche. La palette chip plus vite et la palette casse. Face à cette épidémie de bâtons brisés, il offre des services de réparation à ceux qui, contrairement aux joueurs du Canadien, ne peuvent pas se munir d'un bâton neuf au début de chaque période. Mes clients, ce sont soit des adultes qui jouent dans des ligues de garage et qui ne veulent pas payer 450 $ pour un bâton de hockey, ou les parents de joueurs de hockey qui sont en sport-études et qui dépensent une fortune en bâtons par année, explique-t-il depuis son atelier, une cinquantaine de bâtons alignés au mur derrière lui. Une industrie en croissance. L'industrie de l'équipement de hockey est immense. Sa valeur était estimée à 2,30 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 3,13 milliards d'ici 2030. Aux yeux de Jeffrey Ferron, l'aspect marketing est central à cette course à la légèreté et au coût faramineux de ces nouveaux bâtons de hockey. Certains se vendent à plus de 400 $ chacun. Fait que là, tu as des jeunes, mettons en sport-études, qui se disent « Moi, je veux le nouveau super bâton de 300 grammes », constate-t-il. Cette association entre légèreté et performance mène à des bâtons à la limite d'être trop fragiles et qui ont une faible durabilité dans le temps. Ce qui explique tous ces bris sur la glace pendant les séries. Mais il affirme aussi qu'un gars de la Ligue nationale, souvent, s'il a joué dans le junior avec tel modèle de bâton, c'est très rare que, quand il va arriver au niveau professionnel, il va vouloir changer de bâton. Selon lui, ce ne sont donc pas tous les professionnels qui jouent eux-mêmes avec ces nouveaux bâtons ultra légers. Quand les jeunes rentrent ici, ils me disent qu'ils veulent le Bauer Pulse de Caulfield. Quand je leur montre le poids du bâton que Caulfield utilise en réalité, ils ont la gueule à terre. Comme quoi, l'outil ne fait pas le moine. Même lorsqu'on gagne plus de 10 millions de dollars par année. C'était Pourquoi les bâtons de hockey se brisent-ils aussi souvent? Un texte de Julien Forêt, paru le 26 2026 dans Le Devoir.
Hostie d'imbécile et autres témoignages sur l'essence. Un texte de Francis Vaille est publié dans la presse du 18 avril 2026. Hostie d'imbécile. Ou encore, le cave de journaliste, on prend toutes les baisses. Avec nos chars et le gaz, on va travailler pour amener d'autres impôts et taxes, espèce d'épais de journaliste. Sinon ceci. De quoi tu te mêles, journalistes de marde qui veulent taxer et appauvrir les citoyens? Va chier, Vaïk. J'ai laissé les fautes et coquilles pertinentes dans le contexte. Édifiant, n'est-ce pas? C'est le genre de commentaires que je reçois par courriel, comme d'autres chroniqueurs sans doute, quand j'affirme dans une chronique que la baisse de 10 cents de la taxe sur l'essence du gouvernement Carney est insensée. Insensé dans le contexte lourdement déficitaire du gouvernement fédéral, puisqu'il faudra récupérer ailleurs les 2,4 milliards de dollars de la mesure. Insensé car la baisse risque d'être absorbée par les détaillants et les pétrolières. Insensé car elle va à l'encontre des efforts titanesques à faire pour freiner les changements climatiques, changements qui vont coûter une fortune quand les contribuables devront payer. Visiblement, le sujet de l'essence est extrêmement sensible. Évidemment, on peut en débattre. Arguer, par exemple, que le répit de 10 cents pendant 5 mois offert par Carney est indispensable dans le contexte économique difficile que vivent certains ménages. Et c'est ce que font respectueusement la plupart des lecteurs qui m'écrivent, rassurez-vous. Mais que certains s'excusent de la vivacité de leur réaction quand je leur réponds, constatant qu'il y a un être humain derrière l'écran. Dans l'ensemble, je dirais que 60% des très nombreux lecteurs qui m'ont écrit par courriel sont d'accord avec ma chronique. Sur le réseau X, par contre, c'est 99% contre, et c'est souvent belliqueux et vulgaire. On peut débattre, donc, comme le fait Jean-Michel Poirier. Citation. Je comprends très bien les inquiétudes soulevées dans votre éditorial, notamment en ce qui concerne le coût pour l'État et les incohérences possibles avec les objectifs climatiques. Cela dit, je crois qu'il manque une dimension essentielle, la pression financière que subissent les ménages. Pour beaucoup, la situation n'est plus théorique, elle est immédiate, tangible et parfois difficilement soutenable. Dans ce contexte, une mesure temporaire visant à alléger le coût de l'essence peut se défendre. Fin de citation. Ou encore, mérité père. Citation. Voyez-vous, M. Vaille, il y a des gens qui ne vivent pas à Montréal et qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Il y a ceux qui ont besoin d'essence pour exécuter leur travail. Il y a ceux qui, habitant au fond d'un rang, ont besoin de l'essence dans leur auto pour maintenir une vie sociale et ne pas se retrouver isolé. L'augmentation du coût du carburant s'ajoute à celui de l'épicerie. Notre premier ministre l'a compris, lui. Fin de citation. Certains jugent que je vis dans une bulle et que le gouvernement devrait mieux gérer ses dépenses plutôt que de surtaxer les citoyens. Les favorables disent autre chose, notamment Gaétan Taillon. Citation. Bravo pour votre opinion et pour le courage de l'exprimer. Je viens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et je suis propriétaire de 200 acres de l'eau boisée et j'ai besoin de mon pick-up F-150 pour mes travaux sur mes lots et pour faire du camping avec notre roulotte de 24 pieds, entre autres. Ma conjointe et moi utilisons surtout une petite Ford Fiesta pour nos autres déplacements quotidiens. Je suis d'accord avec vous que la décision de baisser le prix de l'essence est insensée, surtout quand on se compare au prix en Europe. Fin de citation. Le lecteur Claude Constant, pour sa part, prend un ton parfois ironique. Il remarque que bien des ménages ont les moyens de voyager et de remplir les restaurants et les salles de spectacle, comme d'aller dans le sud avec leur roulotte. Citation. Heureusement qu'ils vont économiser 10 cents le litre que nous devrons rembourser avec intérêt sur la dette nationale. Pendant ce temps, nos pauvres vont perdre l'autobus, coucher à la belle étoile. Nos écoles et nos routes vont dépérir par manque de fonds publics. Se serrer la ceinture? Jamais. Il faut profiter de la vie et consommer. Voilà la clé du bonheur. Fin de citation, m'écrit-il. Gérald Bolduc de Lévis est bien d'accord avec ma chronique. Il ajoute même qu'il est, citation, à bout de patience de voir ces publicités pour les plus gros camions qui sont aussi les plus gros consommateurs d'essence, lors des parties d'hockey notamment. Ça devrait être illégal. Fin de citation. Il était donc content de voir monter le prix de l'essence, espérant que cette hausse réduirait l'engouement pour les gros camions. Citation, ici au Canada, c'est un paradis pour le prix des carburants. Que les plaignards aillent se promener un peu ailleurs, comme en Martinique, m'écrit-il, essentiellement. Yves Champagne de Repentigny abonde dans le sens de ma chronique. Citation, on se paie des faveurs sur la carte de crédit de nos enfants. C'est eux qui devront rembourser les montants servant à nous rendre la vie plus facile aujourd'hui. Et eux, comment pourront-ils avoir une marge de manœuvre si on l'utilise pour nous? Fin de citation. Yves Champagne. Bref, il y a les pour et les contre. Et parmi les contre, il y a ceux qui, encore aujourd'hui, nient la réalité des changements climatiques ou remettent en question leur importance, malgré l'avalanche de preuves scientifiques. La réduction des gaz à effet de serre a stagné au Canada en 2024, a-t-on appris cette semaine. Depuis 20 ans, le niveau a baissé de seulement 10 % et il faut le réduire de 35 % de plus d'ici 5 ans pour atteindre nos objectifs en phase avec le reste de la planète et éviter le pire. Voyant les flamèches qu'occasionnent une petite variation de 10 cents, j'ai bien hâte de voir la réaction à la facture qui s'en vient. Fin de cette chronique de Francis Veille, titrée « Hosties d'imbéciles et autres témoignages sur l'essence », publiée dans la presse du